Quelle grâce de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai été travaillé par un sujet qui, je le crois, va nous aider. Nous trouvons cette affaire dans le livre de la Genèse. Bien des événements se sont passés, nous y reviendrons certainement au cours de la prédication. Genèse 28, il y a eu de gros problèmes dans la famille d'Isaac, de gros problèmes. Et Jacob va être obligé de fuir sa famille. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Je voudrais lire un autre verset. Gardez la page, s'il vous plaît, parce que nous allons venir surtout dans ce texte. Un verset dans les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, je voudrais lire juste les deux ou trois premiers mots du chapitre 14. À savoir qu'il est bien sûr, juste, il est précédé de ce grand chapitre sur l'amour, combien Dieu nous demande d'aimer. D'aimer, non pas avec de l'amour humain, mais avec de l'amour que nous recevons de Dieu. Afin que trois vertus demeurent dans le cœur de l'Église. Au verset 13, on peut le lire. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Amen. Nous y reviendrons parce que je pense qu'on n'aura pas l'occasion de développer cette pensée. En partie certainement à la conclusion de cette étude. Mais mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose qui plaît à Dieu, c'est que nous nous aimions. Mais pour aimer, il faut d'abord recevoir de l'amour. Et quand Dieu dit « mais recherchez l'amour », on en déduit bien qu'il faut le rechercher auprès du Seigneur. Et que si nous ne recherchons pas Dieu, si nous ne recherchons pas les choses de Dieu, il va y avoir de grandes difficultés dans nos vies, dans nos maisons. Et quand vous lirez cette semaine, j'espère que vous le ferez, vous allez lire le chapitre 27, même avant, à partir du chapitre 25, où il est parlé de la naissance d'Ésaü et de Jacob. N'oublions pas, c'est le fils d'Abraham. Genèse, oui, c'est bien ça? Mes frères, Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et malgré le fait que cet homme de Dieu, qui a commis des erreurs aussi, et c'est bien que nous ayons justement le rapport de ces erreurs pour nous, que nous comprenions que nous sommes tous pareils. Mais Isaac va se marier avec Rebecca Et dans cette famille, il va y avoir plein de problèmes. Plein. Mais c'est catastrophique. Vous le relirez et vous vous arrêterez sur tout ce qui se passe. Et pourtant, nous voyons dès le départ combien il y a la volonté de Dieu. Dieu, déjà, lorsque, on peut le lire, lorsque Dieu va parler à Rebecca, et il va lui dire, elle va lui dire, voyez, Genèse 25, verset 23, ses enfants se heurtaient dans son sein. Voyez, elle était enceinte, donc. Elle se posait la question, verset 22, mais s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, verset 23, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bon, ça commençait déjà avec cette affaire. Rebecca, elle voulait un enfant, il y a des jumeaux, et déjà Dieu dans le sein, Dieu nous fait comprendre sa préscience. Il choisit Jacob dans le sein de sa mère. Est-ce que Jacob, dans le sein de sa mère, était déjà supérieur à Ésaü? Est-ce qu'un enfant qui n'est pas encore né est plus spirituel? Non, ça nous montre, mes frères, c'est sérieux cette affaire, c'est écrit, c'est très important. Ça nous montre que Dieu est souverain et qu'il choisit qui il veut et qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants. De la même manière que Dieu a choisi Jacob, merci. De la même manière, Dieu nous a choisis. Et si ce matin nous sommes dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis. Oui ou non? Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et ce texte nous enseigne la même chose. C'est que Dieu a choisi Jacob. Il aurait pu prendre Ésaü. Il a choisi Jacob qui allait naître un second pour que nous comprenions que le plan de Dieu est une affaire de grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Après, c'est vrai, la famille va se disloquer. Rebecca, qui était une femme bien, quand on le voit au début, elle va préférer Jacob, Isaac va préférer Ésaü. Il va y avoir de la jalousie. Dieu avait exprimé sa volonté, mais chacun de son côté va essayer de tirer la couverture à soi. Isaac n'a pas eu confiance à Dieu. Il n'a pas compris Dieu, puisqu'à un moment donné, il va s'arranger pour que ce soit lui qui dit, écoute, tu vas à la chasse, tu me prépareras le mets que j'aime, et quand tu reviendras, je te bénirai. Rebecca, qui écoutait aux portes. Et oui. Et oui, c'est vrai. Et ce n'est certainement pas de la première fois, parce qu'elle devait se douter que ce jour allait arriver. Elle écoutait aux portes. Quand est-ce que ça? Parce qu'il devait y avoir déjà un malentendu par rapport à la promesse de Dieu, par rapport à la façon dont Dieu allait agir. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé Jacob, elle a menti, elle a fait mentir son fils. Elle a dit, voilà, tu vas faire comme ça, tu vas te déguiser. Et tu vas prendre le meilleur chevreau, et tu vas te faire passer pour ton frère, et tu vas demander la bénédiction de Dieu. Mais les conséquences, c'est affreux. Son père va être furieux, furieux. Elle va être dégoûtée de la vie. Il faut le lire, on n'a pas le temps de le lire. Mais regardez quand même, ça vaut quand même. Il y a des choses terribles. Quand Isaac se rend compte de la supercherie, il est en colère. Regardez Genèse 27, verset 23, 32. Isaac, son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Voyez? Verset 34, lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et l'amertume, ça va l'amener à un choix terrible. Verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai Jacob, mon frère. Verset 46, la maman, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. Alors dans la bénédiction que Dieu, le reste de bénédiction que Dieu prononce sur Ésaü, il lui dit ne prends pas une fille parmi les Cananéennes. Et lui, très spirituel, va pas faire mieux. Regardez, non mais c'est quand on lit cette histoire, c'est une famille, mais enfin, on peut s'y retrouver. Genèse 27, verset 8, 28, verset 8. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Son père et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël. Voyez, Dieu lui dit, écoute, son père lui dit, écoute, surtout, bon, ça ne se passe pas comme on voulait, mais au moins, ne te marie pas avec une cananéenne. Et lui dit, ah bon, ça ne te plaît pas. Voyez, la famille.
vous le relirez, vous le méditerez, vous ferez ce que j'ai fait toute la semaine, et vous vous direz, eh bien ouais, c'est une famille qu'on comprend. Ou je me trompe? Oui ou non? Vous la comprenez, la famille? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut penser. En même temps, je dis, Seigneur, merci. Vous me gardez? Moi, je bénis le Seigneur. Parce que quand même, Dieu, dans cette affaire, il va exprimer sa volonté. Et il va manifester sa bénédiction. On a affaire à une famille, il faut être honnête, qui quand même nous ressemble. Vous ressemblez davantage à la famille d'Ézéchiel ou d'Ésaïe ou de Jérémie, ou on ressemble plus à cette famille? C'est la question qui vaut la peine d'être posée. Et on a commencé la lecture. N'oubliez pas, non mais imaginez tout ce qui s'est passé. Ça ne dure pas depuis 24 heures. Ça fait des années que ça dure. L'ambiance à la maison est catastrophique. Et là, il y a un manque de foi terrible. Et pourtant, c'est le peuple de Dieu. L'un a voulu absolument obtenir la bénédiction à sa façon. Et Rebecca et Jacob ne faisaient pas confiance à Dieu. Parce que est-ce que ça se serait manifesté quand même? Si Rebecca et Jacob avaient dit, écoute, tu sais ce que Dieu a dit, on attend. On n'a pas la peine d'écouter aux portes, c'est pas bien. Est-ce que la volonté de Dieu se serait manifestée quand même? Mais bien sûr, c'est évident. C'est évident. Comment? Personne n'est capable de le dire. Mais Dieu, vous l'avez vu pour l'histoire de Joseph, Dieu quand il veut quelque chose, il le fait. Et nous voyons quand même Jacob, il voit sa mère qui est écœurée, dégoûtée de la vie. Lui pense que son père va mourir parce que sa mère le pensait. La vive émotion nous parle d'un problème certainement douloureux dans le cœur de cet homme qui a été trompé. Enfin, là-dedans, on voit que ça pendant longtemps, pendant de longues années. On voit un homme qui... Vous vous rendez compte, imaginez-vous, vous qui êtes maman, que vous ayez un frère qui veut tuer un fils qui veut tuer l'autre fils. Mais c'était terrible ce qui s'est passé. Et Jacob, il est parti, il a fui, et il se retrouve là. C'est là qu'on a commencé notre histoire, à Beersheba, enfin à Charan. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comme oreiller, une pierre. Voyez, cette semaine, j'ai pensé à Jacob, quand il a fui, qu'il s'est retrouvé là en pleine nuit. Je me demande tout ce qu'il a dû penser. Qu'est-ce qu'il a pu penser? On pourrait faire un débat, mais je suis sûr que ça a dû être plein de douleur. Est-ce qu'il a pu penser, mais c'est fini, tout ce que Dieu avait pour moi, avec ce que je viens de faire, mais c'est caduc. Est-ce qu'il a pu le penser? Mais c'est fini, plus jamais le Seigneur sera d'accord avec moi, plus jamais il va me bénir avec la manière dont on a magouillé pour obtenir la bénédiction. Il l'a voulu. Mes frères et sœurs, si vous voulez la bénédiction, faites confiance à Dieu pour commencer. Faites confiance. Cette histoire, vous voyez, avec ses travers, nous enseigne une grande vérité. Que si on fait confiance à Dieu, ça va marcher. Et là, il est là. Il a son cœur peut-être aussi dur que son chevet ou son oreiller. Il a dû se dire, c'est fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fuir. Je vais aller chez mon oncle. Boum. Et là, qu'est-ce qui se passe? Franchement, Dieu aurait pu lui montrer une autre vision. Vous ne croyez pas? Dieu aurait pu lui montrer un ciel un peu cadenassé. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu aurait pu lui montrer un ciel fermé? Un ciel d'airain? Et dire, t'es une honte! T'as vu tout ce que t'as fait? Hein, toi, Jacob? En plus, moi, ce qui me bouleverse, c'est que quand Dieu parle, il dit pas, je suis le Dieu des meilleurs. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. Et on devrait tous dire ouf. Ou amen. Mais on peut dire ouf. Parce que si Dieu, notre Rédempteur, est le Dieu de Jacob, je peux vous dire qu'il peut être le vôtre. Et que nous devons absolument croire que la grâce de Dieu, bien sûr qu'elle est venue, la dispensation de la grâce de Dieu, elle est venue par Jésus. On le sait. La dispensation de la grâce de Dieu est venue par Jésus. Mais moi, je vous dis que la grâce, Dieu a toujours fait grâce. Même dans la loi, la preuve, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire un songe. Dans ce songe, qu'est-ce qu'il voit? Une échelle qui monte au ciel, les anges qui descendent et qui remontent, et Dieu qui est en haut de cette échelle, et qui rebénit tout à nouveau, qui renouvelle la promesse. Parce que je suis sûr que Jacob a dû penser, c'est terminé. La promesse que Dieu m'a faite, elle est annulée. Avec ce que j'ai fait souffrir mon frère, en plus il veut me tuer, j'ai fait souffrir mon père, j'ai fait souffrir ma mère, je suis un minable. Je suis sûr qu'il a dû le penser. Et là il se couche certainement complètement désappointé, désespéré, parce que on peut être fourbe et mauvais, mais quand on fait souffrir les gens quand même, à moins qu'on ait perdu la conscience, ça va pas. Si vous faites souffrir quelqu'un, et je m'adresse à chacun, si nous sommes de ceux qui, dans la famille, on n'a pas à faire souffrir les gens. Je crois que quand on recherche l'amour, c'est parce qu'on veut bénir les autres. C'est notre devoir, les chrétiens. Jésus l'a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Un chrétien, il devrait s'interroger s'il n'amène pas la bénédiction sur les autres. Qui qu'il soit, quel que soit son temps de conversion. Et nous voyons ce Dieu plein de miséricorde qui intervient. N'oublions pas que Jacob, il n'avait pas le livre des psaumes, il n'avait pas les évangiles. La Bible n'avait pas été encore, même la Torah n'était pas encore écrite. C'est Moïse qui va le faire. Vous comprenez? Mes frères, nous avons un Dieu qui nous montre que le ciel est ouvert. Il faut que nous comprenions ça, mes frères et sœurs. Oui, vous êtes peut-être dans l'échec. Oui, vous avez fait du mal à votre femme. Oui, vous avez fait du mal peut-être à vos enfants. Oui, nous nous sommes peut-être tous fait du mal les uns les autres. Mais cette histoire, elle est là pour nous enseigner que nous avons un Dieu qui est capable de nous rappeler qu'il y a une échelle ouverte. Alors quelqu'un va dire, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament? Est-ce que Jésus l'a dit? Venez avec moi dans Jean au chapitre, gardez la page bien sûr. Venez avec moi dans Jean au chapitre 1er. Dans Jean au chapitre 1er, c'est écrit. C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. Lisez votre Bible. J'ai vu deux hommes la semaine dernière à Marignane qui me disaient, des hommes qui avaient 60 ans, 65 ans, ils me disaient, on a tout perdu. On est sec spirituellement. On a besoin de retrouver la communion avec Dieu. On a besoin de retrouver cette ferveur. Et regardez, c'est une affaire, c'est Jésus qui parle à Nathanaël. Et voilà ce qu'il lui dit. Au verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Et même si les gens n'ont pas vu physiquement les anges, est-ce que vous croyez que Jésus, pendant son ministère, a été soutenu par les anges? Est-ce que vous croyez qu'il a été soutenu par la puissance de Dieu? Il était lui-même la puissance de Dieu. Et il recevait l'onction et la bénédiction. On le voit dans le jardin de Gethsémané, où un ange lui est apparu pour le fortifier. Mais on se doute bien, avec tout ce que Jésus a fait, qu'il était continuellement au bénéfice de ces anges puissants qui l'ont soutenu et qui l'ont gardé. Oui, il y a un Jacob dans la Bible qui nous interpelle. Et ce matin, je voudrais que plusieurs, vous puissiez prendre la victoire, comprendre que tout est grâce. Dieu ne s'est pas trompé, il n'a pas dit ce jour-là, quand l'un voulait tuer l'autre, quand la mère était furieuse, quand le père était en colère. Vous savez, ça devait chauffer ce jour-là. Dieu, il n'a pas dit, non, c'est terminé, je vais en choisir un autre, ça m'énerve, je vais en choisir un autre. Non! Quand les fils de Jacob, parce qu'aussi ils étaient bons, les fils de Jacob, les 12, qui ont voulu tuer à plus... Joseph! Décidément, est-ce que les promesses de Dieu ont été annulées? Et là aussi on peut dire, ouf, franchement, c'est pas vrai? Il y a une échelle, mes frères et sœurs. Oh, l'échelle, ne la cherchez pas. Un jour, ma fille, on faisait le culte de famille, elle avait 56 ans. À la fin du culte, elle dit, mais papa, mais pourquoi on se casse la tête? On n'a qu'à aller là où il y a l'échelle. Vous voyez? Dans la prière. Pour aller au ciel, on a quand même l'échelle. Comment ça s'est fait ça? C'est pas si. C'est vrai. Mais notre échelle à nous, notre grande échelle, vivante, c'est le Seigneur Jésus. Elle y est. Et nous allons terminer justement avec cette pensée. Cette échelle, elle est toujours là. La grâce, elle est là. Oui, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est vivant. La porte est ouverte. On peut dire, mais peut-être qu'au-dessus de ma vie, le ciel est fermé. Mais peut-être que vous êtes fermé le ciel au-dessus de vous. Moi, je vous dis que la porte, elle est ouverte. La porte de la grâce, elle est ouverte. Le ciel, il est ouvert. Et il ne faut pas mélanger les choses et continuer à vivre dans l'échec, continuer à vivre dans la tristesse parce que vous avez blessé quelqu'un, parce que vous avez blessé votre maman, parce que vous avez blessé votre papa, parce que votre frère voudrait vous tuer, j'en sais rien, pour reprendre l'image du texte. Mais par nature, nous sommes comme Jacob. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous sommes tous comme ça. Et comme nous aussi, nous avons des raisons de nous poser la question, comme Jacob cette nuit-là, même si ce n'est pas écrit, est-ce que le ciel ne m'est pas fermé ? Avec toutes les bêtises que je viens de faire, avec tout mon comportement stupide, alors que j'ai un Dieu qui est vivant, alors qu'il m'a béni, alors que je sais que ma maman m'a dit qu'il y avait une prophétie pour moi. Vous croyez qu'il était au courant, Jacob ? Bien sûr, puisqu'il a volé la bénédiction. Une bénédiction, ne la volez pas. Dieu vous la donnera, vous inquiétez pas. Si elle est pour vous, il n'y a pas un autre qui vous la prendra, croyez-moi. Cette échelle, elle est là, mes frères et sœurs. Et ce matin, pendant la prédication, peut-être si on a 2 minutes tout à l'heure, on peut saisir une victoire, une grande bénédiction. Cette échelle, elle est confirmée dans le Nouveau Testament. On vient de le lire. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez ce matin vraiment que Dieu peut vous bénir ? Que les anges de Dieu peuvent vous servir ? Oui, moi, avec ce que j'ai dit, avec ce que j'ai fait, eh bien oui. Avec ce que vous avez dit, avec ce que vous avez fait, vous pouvez vous repentir et dire, Seigneur, j'ai honte d'avoir été jaloux de mon frère. J'ai honte d'avoir méprisé ma mère. J'ai honte d'avoir critiqué mon père. Qu'est-ce que Dieu y fait ? Cette nuit-là, il lui rappelle les promesses. Ça fait du bien des fois qu'on nous rappelle les promesses. Vous croyez pas, frères et sœurs ? On les oublie. On a tellement honte de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, que je crois que c'est bien quand le Seigneur nous dit, mais mon fils, mes promesses, je les tiens. Ça ne nous encourage pas à faire n'importe quoi. Si vous faisiez partie de ceux et de celles qui utiliseraient ce que je suis en train de vous dire pour dire « Ah, mais ça m'intéresse ce qu'il est en train de dire. » Donc, quoi que ce soit que je fasse, quelle que soit mon attitude dans la famille, Dieu tiendra ses promesses à mon égard. Écoutez, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Ça serait vraiment malsain et malvenu, car la Bible parle de ceux qui pêchent volontairement. Je pense qu'il faut bien le rappeler, un péché involontaire, ça arrive, mais le péché volontaire, attention, c'est tout à nouveau profaner le sang de Jésus, dira Hébreux chapitre 10. Et il y a des chrétiens, pas sérieux, peut-être ici ce matin, qui font partie de ça. Vous n'êtes pas sérieux avec le péché, vous n'êtes pas sérieux avec l'obéissance. Ça fait que vous vous autorisez à dire, ah mais c'est bien, ce qu'il a dit Monsieur Gau, ça m'intéresse. J'espère que ce n'est pas ça qui vous intéresse, de dire que même si vous péchez, ce n'est pas grave. Le péché, c'est toujours grave. Et on en paye toujours les conséquences. Et je peux vous dire que Jacob, il a payé ça pendant 20 ans. Même si Dieu renouvelait ses promesses, il a payé 20 ans. Pendant 20 ans, il a eu peur que son frère ne vienne le tuer. Vous savez, le péché, même si Dieu le pardonne, il faut payer le pot cassé. Si vous semez le vent, vous ne récolterez pas le vent, mais la tempête. Le péché, ça ne paye pas le péché. Il faut le régler. C'est pour ça que la Bible dit qu'on en souffre longtemps. Dieu lui rappelle ses promesses. Je suis avec toi, Jacob. C'était bien que Dieu... Je ne sais pas si Dieu lui avait parlé alors qu'il était éveillé, il aurait cru. Dieu lui a parlé dans le sommeil parce que... Au moins, il était tranquille. Vous voyez, il ne pouvait pas bouger. Là, Dieu l'a coincé dans le sommeil. Voilà, il ne bouge pas, je vais lui parler maintenant. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Il en avait besoin parce que les 20 années qui vont suivre ne sont pas faciles. Je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Oh, qu'est-ce qu'il a eu de la chance, Jacob. Mais nous, mes frères et sœurs, sérieusement, écoutez bien. Est-ce que ces promesses que Dieu a faites à Jacob, Dieu ne nous les fait pas dans le Nouveau Testament ? Il les a faites, c'est le Seigneur ? Est-ce que Dieu n'a pas aussi dit aux disciples, avant de remonter au ciel, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qu'on en fait face à ce qui est en train de se passer, face au soulèvement, face au tremblement de terre, face à la violence ? Jésus a dit, « Mais quand vous verrez ces choses, votre délivrance est proche. » Oui, je suis avec vous. On pourrait prendre les textes, Matthieu 28, verset 20, si je me trompe. Est-ce quand il a dit, je te garderai partout où tu iras ? Il y a des textes où il est dit que Dieu nous gardera. Regardez avec moi 1 Pierre 1:5. Il faut lire la Bible, mes frères et sœurs. Je suis désolé de voir que de plus en plus de gens, de chrétiens, ne lisent pas la Bible. Alors Dieu ne peut pas leur rappeler les promesses. Si Dieu vous rappelait toutes les nuits par un songe ses promesses, je ne vous dirai rien. Mais ce n'est pas quand même la norme d'aujourd'hui. Dieu, il nous a laissé sa parole. Voyez 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Est-ce que, voyez, c'est pareil. Je te garderai, lui dit, vous êtes gardé. Et il y a d'autres textes, hein. Dans Jude, au verset 24, un petit peu plus loin. Regardez. Jude, verset 24.
à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? Que Dieu, il peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. C'est la même chose. Dieu, il dit, je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai dans ce pays. Et nous, au fait, ce n'est pas une question, là, les Antillais, de retourner aux Antilles, hein, pour bénéficier de, hein, des Alizés. Ce n'est pas ça. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas parlé d'un pays dans lequel il va nous amener? Quand je vais vous préparer une place et quand tout sera prêt, je reviendrai vous chercher, vous serez avec moi. C'est pareil. Dieu nous a promis que nous retournerions dans notre vrai pays. Parce que la terre, je suis désolé, c'est bien vrai que nous sommes étrangers sur la terre et voyageurs ici-bas. Notre terre, elle est là-haut. C'est notre patrie céleste. Et Dieu a dit, je te ramènerai dans ce pays. Dieu vous dit ce matin au travers de cette simple prédication, si tu restes fidèle, je t'amènerai dans mon pays, dans le ciel, dans ma maison. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il ne faut pas se décourager. Cette échelle, elle est là. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Est-ce que ce n'est pas écrit ça aussi? Que Dieu nous donnera tout ce qu'il a promis. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Hein? Quelle est la réaction de Jacob? On va terminer avec la réaction de Jacob. Comment il réagit, Jacob, lorsque Dieu lui parle dans son songe, qu'il se réveille? Vous ne croyez pas qu'il devait être heureux? Dites-moi. Avec tout ce qui s'est passé, vous n'êtes pas heureux quand Dieu vous rassure et vous réconforte? Je peux vous dire qu'il a dû se réveiller en meilleur état que la veille, je vous le dis. Même si ce n'est pas écrit, mais j'en suis sûr, vous le comprenez d'ailleurs. Jacob, verset 16. « S'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Mes frères et sœurs, combien de chrétiens, lorsqu'ils fuient, lorsqu'ils ne vont plus bien, ils ne réalisent pas que Bethel, au fait, c'est la maison de Dieu. Mais que le Seigneur, il est là. Vous savez, quand Jésus a dit un jour à tous ces pharisiens, des religieux, des gens qui connaissaient la Bible sur le bout des ongles, quand il a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il parlait de lui, mais il ne le connaissait pas. S'ils avaient connu Jésus, vous croyez qu'ils auraient agi comme ça? Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Et comment réagissons-nous ce matin? Comment réagissez-vous suite à cette prédication? Vous croyez que Dieu vous abandonne? Si vous vous éloignez de Dieu, c'est pas Dieu qui vous abandonnera. C'est vous qui l'abandonnerez. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, il y en a qui abandonneront la foi. Mais vous ne pourrez pas vous présenter un jour devant le trône de Dieu et dire, tu sais Seigneur, moi tu m'as abandonné. Vous savez, toute bouche sera fermée. C'est comme ça que ça se passera. Personne ne pourra dire, Dieu m'a abandonné, il m'a lâché la main. Pourtant tu as dit, Jésus, nul ne nous ravira de ta main. Oui. Lui, il ne la lâche pas. C'est nous qu'on peut la lâcher. Si je vous donne la main, vous pouvez me l'enlever. Mais il y a des gens qui ont enlevé la main du Seigneur. Et ils ont le toupet de dire, Dieu s'est retiré, Dieu s'est éloigné. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il ne nous abandonnera jamais. Avec le prix qu'il a payé au calvaire, je pense qu'il peut faire le reste. C'est pas écrit ça quelque part? Que si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison il fera le reste? Oui, Dieu nous a préparé une maison dans le ciel. Et ça va durer longtemps, cette affaire. Vous savez combien de temps ça va durer? L'éternité, ça ne vaut pas la peine que l'Église se ressaisisse, comme disait M. Barcourt dans les chants. L'Église, elle doit donner un bon témoignage aux pécheurs. Peut-être que vous découvrez l'Évangile, et vous devez savoir qu'on n'est pas parfait. Mais voyez, on a quand même une famille hein, dans la Bible qu'on comprend bien, nous. Hein. Ce n'est pas un prétexte, mais quand même, en même temps, ça nous rassure, et ça devrait nous encourager. Qu'est-ce qu'il fait, Jacob? Il se réveille. Je ne le savais pas, il eut peur. C'est la maison de Dieu, la porte des cieux. Dans la voiture, j'ai réfléchi pendant... Quand j'allais à Saint-Martin-de-Croix, je pensais à ce verset. Bethel, la porte des cieux. Mes frères et sœurs, l'Église, c'est la porte des cieux. Ça devrait être la porte des cieux. Dans une Église où on se sanctifie, dans une Église où on obéit, dans une Église où on vit dans la grâce, le ciel devrait être ouvert. Ce matin, le ciel devrait être ouvert. Au-dessus de ce lieu, le cœur, est-ce que notre cœur est ouvert? Il ne le savait pas, Jacob. Pourtant, c'était le petit-fils d'Abraham. Il aurait dû savoir que Dieu était avec lui. Vous croyez qu'Abraham, il le savait, que Dieu était toujours avec lui? Nos enfants le savent. Certains de nos enfants ne le savent pas. Mais c'est pour ça que nous devons refaire certaines expériences. C'est ici, la porte des cieux. Et moi, je ne le savais pas. Combien de gens rentrent dans l'assemblée et ne savent pas que là, ils pourraient obtenir la guérison, la délivrance, le pardon. Mais que les pécheurs n'en soient pas conscients, ça se comprend. mais que les chrétiens rentrent dans l'église par habitude et ne saisissent pas la bénédiction, vous avouerez que c'est quand même dommage. Oui, c'est la porte des cieux. Moi, j'ai pas honte de le dire parce que c'est la vérité. Le ciel peut être ouvert ce matin. Il nous reste un quart d'heure, mes frères et sœurs. Vous voyez, cet homme, il a eu la crainte respectueuse. Ce petit quart d'heure qui nous reste, je voudrais qu'on l'utilise pour saisir la bénédiction. Juste, je termine. Qu'est-ce qu'il fait? Il est saisi de crainte. Voyez? Il est saisi de crainte. Voyez? Il érige un monument. Qu'est-ce qu'il fait? La pierre, là, son oreiller, il en fait un monument. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, ça ne va pas être fini. Il y aura encore besoin de changement, et beaucoup. Mais il y a quand même une expérience. Il fait une expérience avec Dieu. Il nomme ce lieu Bethel. Il a le respect de ce lieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez le respect de la maison de Dieu? C'est pour ça que moi, des fois, je vous dis, mais ne venez pas en retard. Soyez respectueux des horaires. Soyez sérieux. La maison de Dieu, malgré les gens, c'est qu'un bâtiment, c'est un local. Mais ce n'est pas sérieux. Quand on vient en mâchant du chewing-gum, je me répète peut-être, mais vous avez vu de suite, parce qu'il a réalisé que Dieu était là, comment il s'est comporté. Ah non, il faut. Et puis il s'est mis à donner. Vous savez, il a dit, je te donnerai la dîme de tout. Et je dis ça pour aider les chrétiens qui ne... Je me demande s'ils ont été touchés par Dieu. Quand on est touché par Dieu, on donne. On donne sa vie. Je parlais hier aux hommes, et cette semaine, vraiment, j'étais marqué. Pourtant, cette histoire, j'ai prêché peut-être 20 fois dessus, en 28 ans de ministère. Quand Marie, la sœur de Marthe, quand Marie s'est faufilée dans la maison de Simon le lépreux pour épandre un vase de parfum. C'est la seule personne dans la Bible, dans les évangiles, la seule qui s'est approchée de Jésus pour lui donner quelque chose. Tous les autres se sont approchés, même avec la foi, mais pour recevoir, tous. Le centenier avait une grande foi, c'est expliqué. La syrophénicienne avait une grande foi, c'est expliqué. Mais cette femme, elle avait été touchée. Elle était restée assise au pied du Seigneur. Elle avait entendu la voix de Dieu. Elle avait été touchée par la grâce. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pu faire autrement que de donner quelque chose. Jacob, quand il a été touché, il ne peut pas faire autrement. Pourtant, il n'est pas encore sorti d'affaire. Il va falloir qu'il fasse une autre expérience. Mais c'est un réflexe. Il a besoin de donner. Et si vous ne vous donnez plus, si vous n'aimez plus, si vous ne faites plus certaines choses pour Dieu, c'est que vous ne recevez plus. Quand on reçoit, on a de suite envie de se donner. Quand on aime, on a envie de manifester de l'affection. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ne soyons pas troublés, puisque l'affaire nous rassure. Cette famille nous rassure. Mais s'il y a de la jalousie, s'il y a de l'incompréhension, s'il y a du mépris, s'il y a ces attitudes qui ne vont pas, est-ce que nous n'avons pas besoin de réaliser que le Seigneur, il est là, que la porte des cieux est là? Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est grand. Il est grand, le Seigneur. La grâce de Dieu, elle n'a pas commencé avec Jésus. Moi, je vous dis, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. La grâce de Dieu, elle a été instituée par sa venue. Mais elle existait. Elle a toujours existé. D'ailleurs, il est écrit que la grâce est éternelle. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Est-ce que vous pouvez répondre, si Dieu vous a parlé, vraiment répondre sérieusement à cette prédication? Est-ce que vous pouvez dire, mais c'est vrai, Seigneur, moi aussi, je suis pétri de jalousie. J'aime pas ma mère. Mon père est furieux. Je ne sais rien. Mon frère, il a de la haine contre moi. Mais est-ce que vous croyez que Dieu, il ne peut pas régler tout ça? Et Dieu va le régler. Ça va prendre du temps dans l'histoire. Mais Dieu va le régler. Alors mes frères, mes sœurs, les chrétiens, c'est la porte des cieux, l'Église. Notre vie, puisqu'on est le temple du Saint-Esprit, devrait être la porte des cieux. On a chanté tout à l'heure, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Et je pensais à ma prédication. On pourrait venir, Béatrice, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir? Vous pouvez remettre ce cantique, s'il vous plaît? Soyons discrets, restons recueillis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh Jésus, oui, les anges, ils peuvent monter et descendre. Ne sont-ils pas tous des serviteurs? La Bible ne dit-elle pas que les anges sont des serviteurs en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Nous avons des anges, la Bible est formelle. Est-ce qu'ils ne vous ont pas gardé jusqu'à aujourd'hui? Vous n'auriez pas pu mourir dans un accident de voiture 50 fois? Vous, même qui conduisez très bien, Dieu vous a gardé tous les jours de votre vie. Tous les jours en voiture, Dieu nous a gardés. Tous les jours, les anges nous ont gardés. Oui, Dieu n'a pas menti. Il est avec vous, le Seigneur. Il vous rappelle sa promesse ce matin. Il te gardera. Il t'a préparé une maison dans le ciel. On ne peut pas dire merci ce matin pour l'appartement qu'on a dans le ciel. Ça devrait être bien. Je vous le dis que ça va être bien. Mes frères et sœurs, notre Dieu est grand. C'est lui l'échelle. Elle est vivante. Et le ciel est ouvert ce matin. Vous ne le voyez pas parce que c'est quelque chose d'invisible. Mais le ciel est ouvert. Et Dieu, il désire vous guérir, vous délivrer. Vous êtes dans la peur. Soyez délivrés de la peur. Dieu est vivant. On va chanter ce cantique. Si pendant ce cantique, quelqu'un éprouve le besoin de rester recueilli pour prier, priez à votre place. Si quelqu'un a besoin de l'imposition.